Washington DC, 17h en temps universel, un nouveau bulletin d'information à la présentation Rosine Munezero. En RDC, un groupe d'experts a critiqué vendredi les approches militaires privilégiées par le président congolais Félix Tshisekedi pour mettre fin au conflit armé dans l'est du pays où plusieurs centaines de civils ont été tués ces quatre derniers mois. Les approches principalement militaires qui ont été privilégiées par le président Tshisekedi depuis son arrivée à la présidence en janvier 2019 n'ont toujours pas amené les résultats espérés. Et ils ont même parfois contribué à aggraver la situation, analyse le Kivu Security Tracker dans un rapport. Du 6 mai au 10 septembre, au moins 739 civils ont été tués dans les deux régions du Nord Kivu et d'Ituri, selon Human Rights Watch. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la tenue d'une réunion de sécurité visant la réorganisation logistique et opérationnelle de l'état de siège pour l'adapter aux nouvelles données du terrain. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a rejeté vendredi la requête de l'ancien président Jacob Zuma qui lui demandait de revenir sur sa décision, le condamnant à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Cette confirmation de la condamnation de M. Zuma ne remet pas en cause la libération conditionnelle dont il a bénéficié pour des raisons médicales début septembre. Hospitalisé depuis août hors de la prison dans laquelle il avait commencé à purger sa peine, M. Zuma a subi une opération dont les raisons n'ont pas été dévoilées. Au Nigeria, 9 civils ont été tués et 23 blessés dans une récente frappe aérienne, objet d'une enquête de l'armée, selon un premier bilan officiel communiqué vendredi par le chef de l'organisme local de gestion des crises. Le gouverneur de l'état de Yobe, Maïmala Bouni, avait indiqué jeudi que des vies avaient été perdues lors d'une frappe aérienne sur Buhari, sans confirmer le bilan. De blessés dans un état critique ont été transportés dans un hôpital de la capitale de l'état d'Amaturu. En Somalie, la présidence a accusé vendredi Djibouti de détenir illégalement un conseiller et proche du chef de l'état, dont le sort a alimenté ces dernières semaines la profonde crise politique que traverse la Somalie. Un communiqué publié par le bureau du président Mohamed Abdoulaye Mohamed a précisé que ce conseiller et ancien directeur de l'Agence des services de renseignement et de sécurité, Farhad Yassine, était détenu avec d'autres responsables qui l'accompagnaient. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a réagi en qualifiant de fausses nouvelles ces informations destinées à créer de la confusion et entraîner Djibouti dans les problématiques et crises internes de la Somalie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Éthiopie, des centaines de camions ayant transporté de l'aide humanitaire ne sont pas revenus de la région du Tigré en proie à la guerre depuis novembre, ce qui empêche de répondre aux besoins urgents de la population, a déclaré vendredi l'OPAM. Pour le moment, c'est le principal obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire vers le Tigré. Nous ne sommes pas en mesure de constituer des convois de taille significative en raison du manque de camions, a déclaré la porte-parole de l'agence onusienne Gemma Snowden. L'OPAM n'a aucune information sur l'endroit où se trouvent les camions ni à quoi ils servent, a-t-elle ajouté. Au Japon, la campagne électorale pour un scrutin interne le 29 septembre du parti au pouvoir a officiellement démarré ce vendredi avec 4 candidats en lice pour remplacer Yoshihide Suga à la tête du parti et du gouvernement japonais. Le vainqueur de l'élection est quasi assuré d'être nommé Premier ministre à l'issue d'un vote au Parlement début octobre, tant le Parti libéral-démocrate domine la vie politique japonaise. Des élections législatives doivent ensuite se tenir en novembre au plus tard et devraient, sauf énorme surprise, conforter le nouveau Premier ministre à son poste. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Rosine Munezero était à la présentation. Merci de l'avoir suivi. Plus d'informations sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes numériques Facebook, Twitter et Instagram pour l'actualité 24 heures sur 24. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, la transformation du cacao en août a connu une hausse de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Selon le groupement des exportateurs de café et de cacao, le pays a transformé plus de 500 000 tonnes de cacao pour le compte de la campagne 2020-2021, un volume toutefois en léger repli par rapport à la saison précédente. Le Nigeria devrait connaître une croissance de près de 3% en 2021 selon le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele. L'économie est en nette progression depuis le deuxième trimestre. Le pays compte sur l'atteinte des objectifs de vaccination pour revitaliser sa croissance économique. Mais M. Emefiele a souligné que la croissance reste fragile. La fin d'une subvention sur les carburants suscite le mécontentement au Kenya, où le vice-président William Ruto a estimé que cette mesure était une erreur. La fin de cette subvention, instaurée plus tôt cette année pour tempérer le renchérissement du coût de la vie, a provoqué une hausse du carburant à la pompe, atteignant jusqu'à 6% à Nairobi. Les prix devraient encore augmenter avec l'entrée en vigueur le 1er octobre d'une taxe indirecte sur le carburant de près de 5%.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews, des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine. Le Monde Aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30, temps universel sur VOA Afrique. Retrouvez-nous également